Bonjour, cher frère. Bienvenue à l'office du Seba. C'est un plaisir de vous voir tous en cette belle journée de printemps que nous avons ici au siège. C'est le moment de l'année où vous allez probablement tous supposer ce que je vais dire ensuite. Oui, c'est vrai. J'adore le printemps, regarder les arbres pousser, les fleurs sortir, la nature reprendre vie après avoir été, surtout ici, dans cette partie de l'Ohio, dans cette partie du monde où tout est en sommeil pendant des mois et devient gris et brun et couvert de neige. Voir la vie revenir sur le campus, en particulier, mais aussi dans la création de Dieu autour de nous. C'est une période de l'année tellement merveilleuse, tellement agréable. Et la période de l'année où l'on peut prendre un moment et faire une pause, nous remplit d'admiration en regardant la création de Dieu, en regardant toute l'énergie qui jaillit de tous les arbres, de toute la vie végétale, même de la vie animale et de toute la création de Dieu. C'est tout simplement merveilleux, incroyable de voir la puissance de Dieu. Un miracle que Dieu accomplit chaque printemps, pourrait-on dire. Et cela nous met dans l'admiration de notre Créateur. C'est vraiment un moment merveilleux. Mon sujet d'aujourd'hui portera, en quelque sorte, sur la nature de la création sous un certain aspect. Je voudrais parler de ce qui pourrait sembler être une contradiction dans la Bible. En apparence, un ensemble de versets qui s'opposent les uns aux autres. Pour commencer, regardons la Genèse 1 et le verset 26. Genèse 1 et verset 26. Nous sommes à la fin de la semaine de la création. Dieu est en train de recréer la terre, de la renouveler. Nous allons lire quelques versets. Verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu dit, « Qu'il domine. » Descendez au verset 28. Lisez un peu plus loin. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. » Une fois de plus, Dieu se répète pour insister, il dit que nous devons dominer la terre. Nous devons la soumettre. Eh bien, dans ces deux mots, dans les deux versets, la domination est la même. Ce que signifie dominer, c'est écraser, subjuguer, l'emporter sur, régner, gouverner, et soumettre signifie écraser, ignorer. Donc, ne tenez pas compte de tout ce qu'il énumère dans les deux versets. Toute sa création, la conquérir, la soumettre, la servir. L'instruction de Dieu à toute l'humanité, ici au couple originel, Adam et Ève, mais aussi à nous tous qui la lisons et à tous ceux qui l'ont lu depuis, l'instruction. Mettre en esclavage toute la création, la forcer, la maintenir sous l'emprise, l'assujettir. Ce sont des mots puissants. C'est une image forte, une instruction forte que Dieu nous donne, ce que nous devons faire à sa création. Il semble que cela nous donne une grande capacité à faire ce qu'il nous demande. Cela semble simple. Mais allons jusqu'à l'autre bout de la Bible. Il est intéressant de voir comment, dans ce cas particulier, ces deux versets constituent presque un livre et le livre d'instruction de Dieu pour nous. Allons à Apocalypse 11 et au verset 18. Tout près de la fin. Je crois que ce chapitre en particulier, c'est la fin des chapitres qui parlent du début du royaume, de la fin de la grande tribulation, du jour du Seigneur. Il se passe donc de grandes choses, de grands changements. Et Dieu fait une déclaration à la fin du verset 18. Lisons-la, et nous lirons tout le verset. Les nations se sont irritées et ta colère, la colère de Dieu est venue, et le temps des morts pour qu'ils soient jugés et que tu récompenses tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignaient ton nom, les petits et les grands. Il s'agit donc d'un temps positif, bien sûr, lorsque Dieu a la fin ici. Mais voici ce sur quoi je veux me concentrer, et qu'ils détruisent ceux qui détruisent la terre. Nous avons donc deux écritures. L'une, au début de la Bible, dit à toute l'humanité de dominer la création, d'asservir la création, de la soumettre, de la piétiner. Et à la toute fin, on pourrait dire, à un moment précis du jour du Seigneur, pour que nous comprenions qu'avant le début du millénaire, Dieu détruira ceux qui ont détruit la terre. Eh bien, comment pouvez-vous dominer? Comment pouvez-vous réduire en esclavage, et ensuite, dans un sens, être détruit pour avoir détruit la terre? Quelle était la véritable intention de Dieu? Avant d'aller plus loin, regardons le mot détruire. Pourrir à fond, ruiner, corrompre, périr, enlever. Ce sont des mots qui s'opposent. Dieu va donc punir ceux qui ont détruit la terre. Et parfois, on peut regarder Dominion et subjuguer et se dire, il y a écrit réduire en esclavage. C'est forcer, pour garder en dessous. Comment tout cela s'articule-t-il? Cet après-midi, nous allons donc examiner ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a donné à l'homme la domination sur la terre. Quelle était l'intention de Dieu? Quelle était la pensée de Dieu à ce sujet? Et nous verrons comment, en fait, ces deux versets fonctionnent ensemble. Ils nous éclairent sur la manière dont Dieu pense, sur la manière dont Dieu veut que nous pensions en fin de compte. C'est un exemple, je dirais, des deux versets de la Genèse où Dieu dit à l'homme de dominer la terre. L'humanité et la nature humaine ont tendance, et c'est un exemple, à prendre une écriture et à l'utiliser comme une licence pour faire ce que l'homme veut faire, et non ce que Dieu veut faire. Il y a d'autres exemples dans les Écritures. Dans les Écritures, l'homme a utilisé, la société a utilisé comme une licence, pour le bien, mais surtout pour le mal, à ses propres fins. Il déforme les Écritures de Dieu, de sorte qu'ils peuvent presque donner libre cours à ce que sont les Écritures. C'est un élément de la nature humaine. Oh, regardez, cette seule Écriture me donne l'autorité de mettre la terre en esclavage, de mettre la création dans le sens que moi, l'homme, je veux qu'elle soit. Quels sont les exemples que l'homme nous a donnés, au cours des 6000 dernières années, lorsqu'il pense avoir raison, lorsqu'il pense que dominer la terre, faire les choses à sa manière, c'est ce qu'il fait? Je suis sûr que nous avons tous entendu parler de l'île de Pâques, dans le Pacifique Sud. Oui, une nation de gens coupés de Dieu et ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas les lois de Dieu, le but de Dieu. Qu'ont-ils fait? Ils sont allés trop loin. Ils ont déboisé toute l'île dans un but erroné. Et qu'est-il arrivé à la société? La société s'est effondrée. Il y a eu une famine massive. La population a énormément diminué. Voici l'exemple de l'homme, on pourrait dire qu'il a dominé cette île. Ils ont assujetti l'île. Ils ont arraché tous les arbres de l'île. La pluie s'est arrêtée. La nourriture s'est arrêtée. Sans les arbres, ils ne pouvaient pas construire de canoë pour aller pêcher dans l'eau et se nourrir. Mais il s'agit là d'une domination de l'homme, d'une liberté d'action. Pensez au Dust Bowl Dance les années 30. Nous en avons tous entendu parler à l'école, en cours d'histoire ou dans d'autres classes. L'humanité s'est concentrée sur une entreprise particulière, sur une forme particulière de cupidité, pourrait-on dire. Et le résultat final, c'est qu'elle ne s'est pas occupée de cette partie du monde comme il le fallait. Il y a eu d'énormes tempêtes de poussière. Des fermes ont été détruites et plus de 400 000 personnes ont été déplacées et ont dû immigrer dans d'autres régions des États-Unis, simplement parce que l'homme a exercé sa domination. Ils ont transformé une région des prairies, une région du centre de l'Amérique du Nord en une ferme, avec de mauvaises conséquences, en n'appliquant pas les lois de Dieu. Mais ils avaient une certaine forme de domination. Les hommes ont fait ce qu'ils voulaient. On pourrait penser que quelqu'un ici, près de chez nous, dans le nord et de l'Ohio où, malheureusement, la ville voisine de Cleveland n'est pas toujours connue pour ses bonnes choses. Et la rivière qui s'y trouve, la rivière Cuyahoga, est malheureusement connue pour prendre feu. Dans les années 60, elle a pris feu plus de 8 fois. On pourrait dire, l'homme dominait. Ils avaient leurs usines, ils contrôlaient la nature, ils contrôlaient la création de Dieu. Ils étaient occupés à gagner de l'argent ou à faire ce qu'ils voulaient et à déverser des toxines et des produits chimiques dans une rivière que Dieu a créée, en fin de compte, une rivière que Dieu a créée pour qu'elle ait de la vie. Et la vie et le feu ne vont généralement pas ensemble. Mais c'était un exemple de la façon dont l'homme fait les choses et de l'effet que cela peut avoir, d'avoir une domination dans le mauvais sens. Qu'en est-il des produits chimiques que nous avons utilisés? C'est l'homme qui a le champ libre sur la création. Pensez au DDT, un excellent produit chimique. Je ne dis pas cela dans un sens sincère, un produit chimique excellent pour tuer les choses, pour éliminer les insectes. C'est très bien. C'est très bien. Appliquons-le. Ce n'est nocif que pour les insectes. En fin de compte, il est également nocif pour les oiseaux, car il fragilise la coquille des œufs et empêche les oiseaux de se reproduire. Mais l'homme dominait, subjuguait les insectes et ses cultures. Nous avons tous entendu parler du glyphosate, plus connu sous le nom de Roundup, qui domine les mauvaises herbes et nos cultures. C'est la façon dont l'homme fait les choses pour plus d'efficacité, pour un meilleur contrôle. Ce qui est étonnant, c'est que l'origine du glyphosate est un nettoyeur d'égouts, un nettoyeur de tuyaux. Ils ont remarqué, lorsqu'ils ont commencé à fabriquer ce produit chimique dans les années 30 et 40 pour nettoyer les canalisations, qu'il tuait également la végétation à la sortie de ces canalisations. S'il le formulait correctement, il pourrait peut-être l'utiliser dans les fermes, autour de nos maisons, sur nos allées, etc., etc. Mais voici la cupidité de l'homme ou la domination de l'homme sur la création de Dieu, simplement parce que la pulvérisation une fois par an n'était pas suffisante pour les ventes, dans un sens. C'est l'une des choses les plus horribles, d'une certaine manière, que l'on ait jamais lu sur l'utilisation d'un produit chimique dans notre système alimentaire. Cela remonte. Je donne maintenant des exemples de la domination de l'homme sur la terre. La domination de l'homme sur la création de Dieu, et ceci dans les prairies ou le Midwest du Canada, le centre du Canada où l'on cultive beaucoup de blé. Le temps peut être imprévisible. Il peut neiger juste avant que le blé ne soit prêt à être récolté. Ainsi, les hommes intelligents et les comptables avisés des entreprises chimiques ont pu déterminer que si nous pulvérisions une deuxième fois du glyphosate, cette fois-ci, la culture de blé. Ainsi, la culture de blé entre uniformément en dormance ou meurt uniformément avant la récolte. Nous pouvons alors programmer cela et le faire avant que le temps ne change ou qu'il ne soit imprévisible. Ne vous inquiétez pas, c'est l'homme qui fait tout ce qu'il peut pour comprendre la création de Dieu. Nous le ferons au bon moment. La plante n'absorbera pas le produit chimique dans le blé. Il ne sera pas présent dans le blé lorsqu'il sera transformé en pain, en céréales ou en d'autres produits. Ne vous inquiétez pas. Elle le fera au bon moment, de sorte qu'il ne sera pas absorbé. Nous savons que c'est le cas. Mais juste pour rendre les choses plus efficaces, pour vendre une autre série de pulvérisation à tous les agriculteurs, pour le profit, pour le contrôle et la domination dans un sens, l'homme pulvérise un produit chimique qui supprime la vie sur nos cultures de blé. Des exemples de l'homme, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Vous avez tous entendu parler de la plaque de déchets dans le Pacifique Nord et de son ampleur. C'est l'homme qui ne se préoccupe pas des autres, l'homme qui ne pense pas. Il peut y avoir un point à ce sujet, une écriture à ce sujet. En fin de compte, ce n'est que le dernier exemple, je l'ai entendu récemment, et il me frappe alors que nous parlons de ce que Dieu pense de la domination de la terre. Quelle est son intention pour nous? Quelles sont ses véritables instructions? Pas les exemples que nous venons d'entendre, mais cet exemple est pour moi le plus important ou celui qui nous rappelle le plus facilement à quel point l'humanité fait parfois les choses à l'envers. Nous connaissons tous Amazon. Nous utilisons tous Amazon régulièrement. C'est une grande. C'est une entreprise intéressante. C'est une entreprise rentable. Elle facilite de nombreux aspects de notre vie. Aujourd'hui, cette entreprise vaut plus d'argent que la totalité de la forêt amazonienne. Cela devrait nous faire dire, bien sûr, c'est une entreprise. Elle gagne de l'argent. Elle a de la valeur. Cela devrait avoir un sens, mais comment cela peut-il avoir un sens? C'est là que le système de l'humanité est cassé. Le gouvernement de l'humanité et sa façon d'évaluer les choses ne sont plus les mêmes. L'ensemble de la forêt amazonienne qui est pleine de vie, pleine de la création de Dieu. Elle n'est peut-être pas utilisée exactement comme Dieu l'avait prévu. Peut-être qu'on ne domine pas cette forêt comme il se doit, mais elle est le poumon de la terre. Sans elle, il ne pleut pas dans de nombreuses régions du monde. Sans elle, il n'y a pas de nourriture dans de nombreuses régions du monde. Les gens mourraient. La famine s'ensuivrait, mais la façon dont l'homme évalue les choses, une entreprise qui livre des colis pour nous rendre la vie un peu plus commode, est plus appréciée que quelque chose que toute une région nous donne à vivre. La création de Dieu, en fin de compte. La manière dont l'homme domine est brisée. Nous allons apprendre ce que Dieu voulait vraiment quand il nous a dit de dominer. Nous apprendrons que la domination n'est pas la propriété. Allons au Lévitique 25, 23. La domination n'est pas un contrôle total sans paramètres ni instructions. Commençons par le Lévitique 25, 23. Et ici, je suis au. C'est un long chapitre, Lévitique 25. Nous sommes au milieu du chapitre, au verset 23. Nous parlons de l'année du jubilé. Mais il faut se concentrer sur ce verset, le pays ne sera pas vendu à jamais, car le pays est à moi. C'est Dieu qui parle à Israël. C'est Dieu qui s'adresse à Israël, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Sa parole telle que nous la lisons. Car la terre est à moi. La terre est à moi. La terre sur laquelle vous vous tenez est à moi. Car vous êtes des étrangers et des hôtes avec moi. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre, des voyageurs sur cette terre avec Dieu. Il est intéressant de noter qu'il dit « avec moi », ce qui signifie qu'il marche avec lui, qu'il fait les choses comme il l'entend. La façon dont il nous instruit, mais tout simplement, la terre est à Dieu. Elle n'est pas à nous. Passons au psaume 24. Dieu fait cette déclaration. La terre est à moi. Aux États-Unis, nous avons des droits de propriété. Nous sommes un peuple épris de liberté, et il est ancré dans notre société que vous possédez une terre. Cette terre est la vôtre et vous pouvez y faire presque tout ce que vous voulez. Elle est à vous. Ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Dieu dit, la terre est à moi. Et si la terre est à Dieu, elle est accompagnée d'un ensemble d'instructions, d'un ensemble de façons de s'en occuper. La terre n'est vraiment pas la nôtre si nous la possédons dans le monde des hommes. Nous allons lire quelques versets du psaume 24, en commençant par le premier. La terre est à l'Éternel et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et l'a affermie sur les flots. Il suffit de lire les deux premiers versets. Car Dieu l'a fondée sur les mers. Il l'a fait. Il a tout créé. Et il dit au premier verset que la terre est au Seigneur, qu'elle est entière, qu'elle est pleine, que tout ce qui est sur la terre est à Dieu. Il l'a construite, il l'a faite. Et ceux qui y habitent, bien sûr, nous pensons à nous, nous habitons la terre, mais toute la création de Dieu, les créatures qui habitent la terre, sont à lui. S'il est le propriétaire, je pense immédiatement qu'il faut faire attention quand on n'est pas le propriétaire et que c'est Dieu qui est le propriétaire. Nous avons peut-être emprunté une ou deux choses ou loué une ou deux maisons. Lorsque vous n'êtes pas propriétaire, lorsque vous n'êtes pas propriétaire de l'objet que vous avez emprunté, vous devriez naturellement, et c'est ce que nous faisons, prendre davantage soin des choses d'une certaine manière. Nous avons un niveau de responsabilité différent. Passons au psaume 8 et au verset 6 à 8. Quelques passages supplémentaires sur la façon dont Dieu considère la terre. Décrire ce qu'est la domination, qui est la terre. Nous lirons le verset 6. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Encore une fois, l'instruction de Dieu. Nous dominons sur ses œuvres. Nous allons apprendre ce que c'est. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Il nous a donc délégué la responsabilité et l'autorité. Tous les moutons et les bœufs, vous, les bêtes des champs, les oiseaux de l'air, les poissons de la mer, et tout ce qui passe dans les sentiers de la mer. Intéressant, les chemins de la mer, les courants de la mer. Quand on regarde une carte, on s'aperçoit qu'ils sont très étendus. Ici, Dieu enseignerait à David à leur sujet, inspirant l'Écriture, enseignant comment ce que Dieu connaissait avant que l'homme ne le connaisse. Il s'agit simplement des courants qui traversent tous les océans. Mais ici, Dieu nous donne la domination sur tout, et tout cela lui appartient en fin de compte. Passons à la première épître aux Corinthiens et au verset 2. Nous avons vu sur quoi nous dominons. Nous avons vu qui en est le propriétaire ultime, Dieu. Et il y aura quelques passages comme celui-ci en particulier, 1 Corinthiens 4 et verset 2, que dans ce message nous regarderons à travers une lentille particulière, une lentille pour voir ce que Dieu pense à propos de prendre soin de sa création. Certaines des Écritures que nous allons examiner s'appliquent de bien des manières différentes et peuvent être plus courantes dans d'autres utilisations. Mais ici, examinons-les et réfléchissons au fait que nous avons reçu la domination de la terre et qu'en fin de compte, c'est Dieu qui en est le propriétaire. Mais qu'est-ce qu'une instruction à Dieu? Lisons le chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens, une instruction de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 4 et le verset 2. De plus, il est exigé des intendants qu'ils soient fidèles. Si nous sommes des intendants, et les intendants peuvent être, vous savez, en grec, il s'agit d'un gestionnaire, c'est une question d'économie. Mais si nous sommes des intendants de la terre, si nous avons reçu la domination sur la terre, si Dieu nous a délégué l'autorité sur elle, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles dans toutes nos responsabilités. J'ai une note dans ma marge que j'ai prise lors d'un des cours, les cours de l'Ambassador Center, j'ai noté toutes nos responsabilités. L'une d'entre elles, et c'est la raison pour laquelle nous regardons l'Écriture aujourd'hui, et notre responsabilité à l'égard de la terre de Dieu, à l'égard de la création de Dieu. Nous devons être de bons intendants. Nous devons être fidèles à ce que Dieu nous donne. C'est une optique que nous pouvons utiliser pour différentes écritures. Nous savons donc que la terre appartient à Dieu, qu'il la possède, qu'il nous a donné le pouvoir d'en prendre soin, mais nous devons être de sages intendants. Allons à Genèse 2 et au verset 15. Ici, peu après les versets précédents que nous avons lus, Dieu donne ce qui pourrait être ses premières instructions, ses premiers commandements, à Adam et Ève. Adam, en particulier, je crois, à ce moment-là. Lisons-le maintenant. Quelles sont les instructions de Dieu à notre égard, et en fin de compte à l'égard de toute l'humanité? Genèse 2 et verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le vêtir et le garder. Je lis le verset 15. À la fin, il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le vêtir et le garder. C'est donc une instruction. Dieu a mis l'homme là pour faire ces deux choses. Quelles sont ces deux choses? Le texte explique plus en détail ce que signifie la domination. S'habiller signifie travailler, servir, maintenir en servitude, garder le contrôle, contraindre, obliger à faire, habiller, exécuter, prendre soin, garder, faire aboutir. S'habiller, c'est travailler et garder. Garder est un mot intéressant ici. Je l'ai lu récemment dans d'autres cas, mais il s'agit de garder, de protéger, d'être attentif, de faire attention, de préserver, de sauver. C'est un peu différent. Il élargit les définitions que nous avons lues à propos de la domination et de l'assujettissement. Mais ici, garder, préserver, sauver, être circonspect, être conscient, réfléchir lorsqu'il s'agit de veiller sur le jardin d'Éden, de veiller sur la création de Dieu, de la garder. Si l'on garde quelque chose, c'est généralement pour éviter qu'il ne soit endommagé ou blessé, pour le protéger. L'instruction de Dieu à notre égard, à l'égard de toute l'humanité, est de la protéger. En quoi la pulvérisation d'un insecticide, le DDT, sur une culture protège-t-elle la création de Dieu? Vous tuez des parties de la création de Dieu en faisant cela. En quoi cela protège-t-il, entre autres choses? Il s'agit d'une instruction claire de garder le jardin, de le garder, de le protéger. Cela élargit ce qu'est la domination. Ce n'est pas seulement pour leur propre usage, faux ou mal avisé, comme l'ont fait les Polynésiens de l'île de Pâques, à un point tel qu'ils ont fini par mettre fin à leur société. Quelles sont les instructions de Dieu en matière de soins? Le repos de la création. Allons au Lévitique. Nous sommes dans la Genèse. Nous sommes au début de la Bible. Allons au Lévitique 25. Voici peut-être quelques-uns des versets auxquels j'ai fait référence et que nous avons lus dans d'autres contextes pour d'autres instructions. Lisons-le à la lumière de la manière dont Dieu veut que nous prenions soin de la terre, de sa création. Lévitique 25, verset 3. Lévitique 25, verset 3, parle du repos du sabbat sur la terre, du cycle de 7 ans. Au verset 3, nous entrons dans le contexte. Tu ensemenceras ton champ pendant 6 ans. 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras les fruits. Mais la 7e année, il y aura un repos sabbatique pour le pays, un sabbat pour l'Éternel, tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Il s'agit à la fois de semer et de tailler, de sorte que tout peut essentiellement se développer comme il se doit, sans contrôle, sans entrave. Verset 5. Vous ne moissonnerez pas ce qui pousse spontanément, et vous ne vendangerez pas les raisins de la vigne, car c'est une année de repos pour le pays. Ainsi, toute la création se repose pendant une année entière. En un sens, tout ce que Dieu a créé se repose. Le sabbat du pays sera pour vous, pour eux, pour ton serviteur, pour ta servante, pour ton mercenaire et pour l'étranger qui séjourne chez toi, un repas. Ainsi, le repos de chacun se trouve dans votre pays. Et au verset 7, c'est la partie sur laquelle je veux me concentrer dans ce cas particulier, pour ton bétail et pour tes bêtes qui sont dans ton pays, tout ce qu'elles produiront servira de nourriture. Le bétail et les bêtes doivent donc se reposer. À cette époque, le bétail et la bête sont utilisés pour retourner la terre, labourer le sol et moudre le grain. Ils doivent tous se reposer. Chaque partie de la création de Dieu doit se reposer. C'est différent de la manière dont l'homme veut récolter, soumettre et exploiter la création de Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dieu veut que l'ensemble de la création se repose, de nous aux bêtes, pendant une année entière. Passons à l'Exode 23 et au verset 10, et lisons un peu plus sur les versets concernant le repos. Lévitique, 23e et 10e verset. Là encore, nous parlons des 7 années. La 7e année, tu la laisseras reposer et se reposer, et les pauvres de ton peuple pourront manger, et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils laisseront. Les pauvres de ton peuple pourront manger, et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. On agira de même pour ta vigne et pour ton olivier. Il en va de même pour le reste de ta ferme ou de ton élevage. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les pauvres du peuple peuvent manger, donc les pauvres de la terre peuvent manger, peuvent récolter librement, tout ce qui pousse, et ce qui laisse, les bêtes des champs peuvent le manger. C'est donc toute la création de Dieu qui peut bénéficier du repos du sabbat, et pas seulement nous. L'esprit de Dieu est de prendre soin de sa terre, de prendre soin de sa création également. Au verset 12, il est question du jour du sabbat. Tu travailleras 6 jours. Le 7e jour, tu feras reposer ton bœuf, ton âne, tes bêtes, le fils de ta servante et l'étranger. Vos animaux se reposent aussi le jour du sabbat, vos bêtes de somme se reposent. Imaginons qu'à notre époque, nous n'ayons pas nécessairement de bêtes de somme. C'est généralement une automobile qui est garée dans notre garage, et non un bœuf ou un cheval pour déplacer notre chariot ou notre char. Nous avons un moteur, et nous avons d'autres bêtes de somme dans toute notre société, qui nous donnent les commodités modernes dont nous disposons. Prenez un moment pour imaginer ce que ce serait si tout se reposait d'un coucher de soleil à l'autre le jour du sabbat. Quel calme nous apprécierions ce matin de sabbat, quel calme nous entendrions ce matin de sabbat, et quelle musique nous entendrions lorsque nous entendons la création de Dieu autour de nous, surtout à cette époque de l'année. Les oiseaux chanteurs sont revenus des tropiques, et ils sont de retour autour de nous alors qu'ils voyagent vers le nord. Et nous les entendons à nouveau le matin. Mais imaginez un jour de sabbat où tout est calme, où tout est en repos et où toutes nos bêtes de somme modernes se reposent aussi. À quoi cela ressemblerait-il? À quoi cela ressemblera-t-il? Et qu'est-ce que cela montre de la pensée de Dieu et de ce qu'il veut que sa création fasse également tous les 7 jours? Il veut que toute sa création se repose en paix le jour du sabbat. C'est un peu différent de la domination que l'homme exerce sur la terre aujourd'hui, où nous travaillons 24 heures sur 24, où nous avons des moteurs, des machines et une société qui ne cesse de se développer. Nous avons des moteurs, des machines et une société qui ne s'arrête jamais, des usines qui n'éteignent jamais leur feu, des choses qui ne s'arrêtent jamais et qui continuent à fonctionner. À quoi cela ressemblera-t-il? C'est l'instruction que Dieu nous donne, en fin de compte. Et non, nous ne pouvons pas mettre cela en œuvre à notre époque. Nous savons que nous allons tous participer à sa mise en œuvre dans un âge à venir, lorsque le royaume sera là. Découvrons quelques-unes des instructions de Dieu concernant la création. Allons dans l'Exode 23. Nous y sommes déjà. Plus tôt dans le chapitre 23 et les versets 4 et 5. Nous lirons les deux passages. Si tu vois s'égarer le bœuf ou l'âne de ton ennemi, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de celui qui te est couché sous le fardeau, tu t'abstiendras de le secourir, mais tu le secourras. C'est l'instruction de Dieu. C'est donc intéressant. Si la bête de ton voisin s'égare, tu es censé l'aider, la ramener. Vous êtes censé prendre soin d'eux, même s'ils ne sont pas les vôtres, en un sens. Même ce qui est plus loin, juste la pensée de Dieu, même si vous ne vous entendez pas avec votre voisin. Les choses ne vont pas bien, vous n'aimez pas trop l'aider et sa bête s'égare. Dieu prend soin de sa création en déchargeant ce voisin avec lequel vous ne vous entendez pas très bien, cet ennemi dans votre propre esprit, plus que probablement dans notre propre manière de ne pas nous entendre les uns avec les autres. Que dit Dieu ? Non, tu es cet animal. Vous prenez soin de la création de Dieu. Vous les déchargez de leur fardeau. Vous les aidez à revenir. C'est l'Esprit de Dieu. Vos soins, nos soins pour sa création ne s'arrêtent pas parce que, oh, c'est l'animal de quelqu'un d'autre. Ou encore, cette personne ne m'intéresse pas vraiment, cette personne ne me plaît pas vraiment, alors je ne l'aiderai pas. Comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies, et comment cela nous montre-t-il où se situe vraiment l'Esprit de Dieu lorsqu'il s'agit de prendre soin de la création? Passons au Deutéronome 25. Il s'agit d'un texte que nous avons tous entendu un jour ou l'autre, mais qui nous montre où Dieu se situe et pourquoi il l'énonce. Deutéronome 25 et verset 4. Un verset rapide. Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Ainsi, lorsque le bœuf travaille, il peut manger une partie de votre profit. Il peut manger un peu de ce maïs. Il travaille dur. Il travaille. Le principe qui peut s'appliquer à la protection de la création de Dieu, le principe qui peut s'appliquer au travail avec les autres. Le principe qui s'applique à une relation employeur-employé. Ces quelques mots contiennent de nombreuses instructions. Ici, nous l'examinons lorsqu'il s'agit de prendre soin de la création de Dieu. Elle fait du travail pour vous, et Dieu dit qu'elle peut manger un peu de votre profit. Elle travaillera plus dur. Vous en tirerez plus de profit. C'est incroyable, l'Esprit de Dieu à ce sujet. Il ne s'agit pas d'une domination dans le sens où il s'agit d'une domination, d'une punition pure et simple. Il s'agit d'une domination où le bœuf n'a pas intérêt à prendre quoi que ce soit de plus et à travailler dur. Dieu nous le rappelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande, pourquoi Dieu mettrait-il cela dans la Bible ? Passons à Proverbe 12 et au verset 10, un autre passage de l'Écriture. Elle nous aide à voir les instructions de Dieu pour sa création. On pourrait parfois se dire, tu sais, peut-être que l'humanité comprendrait d'elle-même qu'il ne faut pas museler le bœuf. Dieu savait mieux que cela. Dieu savait que nous et notre nature humaine, nous n'y penserions pas nous-mêmes. Nous mucellerions le bœuf. Nous ne laisserions pas le bœuf manger le maïs pendant qu'il le broie. Dieu a dû nous le rappeler. On se dit, c'est facile. Nous aurions pu y penser tout seuls. Apparemment, non. Apparemment, notre nature humaine ne nous permet pas de voir quelque chose qui relève du bon sens. Mais nous voici au verset 10 de la 12e édition du livre des Proverbes. Un autre texte sur l'Esprit de Dieu à l'égard de sa création. L'homme juste fait attention à la vie de sa bête, mais la bonté des méchants est cruelle. Mais la miséricorde des méchants est cruelle. Regardez la première moitié. L'homme juste prend soin de la vie de ses bêtes. Prendre soin de ce qui vous est donné, en ce sens, une bête, un animal, la création de Dieu. Vous pouvez l'étendre à toute la création de Dieu. Cela fait partie de la justice. Considérer et prendre soin d'un animal fait partie de la droiture. Si vous ne prenez pas soin de la création de Dieu, cela ne fait pas partie de la justice. Il s'agit d'un niveau différent. Cela élargit le sérieux et la responsabilité que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a confié la domination de la terre. Revenons au Deutéronome 20 et au verset 19. Deutéronome 20 et verset 19. Encore une fois, les instructions de Dieu, ce dont il se soucie et ce à quoi il pense. Deutéronome 20. J'y arrive. À partir du verset 19. Là encore, on pourrait penser qu'aucun homme n'est avide. Lorsque l'homme part en guerre, il part en guerre et anéantit tout. Nous pouvons souvent voir cela dans les nouvelles d'aujourd'hui, dans certaines régions du monde qui sont en guerre ou attaquées. Verset 19. Quand tu feras le siège d'une ville pendant longtemps et que tu lui feras la guerre pour la prendre, tu ne détruiras pas ses arbres en y plantant une hache, car tu pourras en manger. Vous ne les couperez pas, car l'arbre des champs, c'est la vie d'un homme, pour les employer dans le siège. Mais en fin de compte, l'instruction de Dieu ici, les arbres fruitiers, les arbres nourriciers, vous ne pouvez pas les couper quand vous allez à la guerre parce que vous en aurez besoin à ce moment-là, et vous en aurez besoin plus tard. Vous ne pouvez pas anéantir complètement cette zone de la terre, cet endroit de la terre. C'est ce que Dieu nous rappelle. Et combien de fois pouvons-nous lire dans l'histoire? Une chose qui me vient à l'esprit est l'une des batailles de Carthage, Rome contre Carthage, des empires rivaux, des villes rivales. Et qu'ont fait les attaquants? Ils ont scellé les champs, de sorte qu'ils ne pouvaient plus cultiver. Ce n'est pas ce que dit directement l'Écriture, mais ce serait une violation directe de ce commandement. Ils ont rendu la ville déserte, de sorte que les récoltes ne pouvaient plus être cultivées. Les instructions de Dieu sont un peu différentes de la manière dont l'homme domine la terre. Reprenons quelques chapitres du Deutéronome 22, versets 6 et 7. Ces versets ont été utilisés dans une sermonette. Et c'est une bonne série de versets à utiliser dans une sermonette. Mais nous n'irons pas nécessairement dans cette direction. Lisons-les, si un nid d'oiseau se trouve devant toi sur un arbre ou sur le sol, et qu'il y ait des petits ou des œufs, et que la mère soit assise sur les petits ou sur les œufs, tu ne dois pas prendre la mère avec les petits. Il faut donc laisser la mère. On ne peut pas prendre les petits. Mais tu seras sage et tu laisseras la mère s'en aller, et tu prendras le petit avec toi, afin que tout aille bien pour toi et que tu puisses prolonger tes jours. Donc, prolongez vos jours et portez-vous bien. Dieu ordonne aux hommes de quitter la mer. De quitter la mer pour qu'il y ait des générations futures. De quitter la mer pour qu'il y ait une régénération. Des options futures pour la nourriture. Il ne s'agit pas seulement d'un oiseau. C'est là que j'ai parlé plus tôt de la façon dont l'homme va prendre l'humanité. Nous allons, dans la nature humaine, prendre une écriture et nous donner une licence. Parfois, nous prenons une écriture et nous l'appliquons, et c'est l'homme dans la société, à un point très spécifique, nous manquons la vue d'ensemble. Dans ces deux textes, Dieu ne parle pas seulement des oiseaux. Dieu ne parle pas seulement d'un cas particulier, mais d'un équilibre dans la manière dont nous utilisons nos ressources pour que la création de Dieu nous régénère et nous fournisse. Nous fournir quoi? De longues journées. Prolongez vos journées. Si vous l'appliquez de manière large, si vous l'appliquez au-delà de l'exemple spécifique, Dieu dit qu'il se peut que vous soyez heureux et que vos jours soient prolongés. C'est une instruction d'une grande portée. Ensuite, il y a un cas particulier concernant les oiseaux qui peut être impliqué de tant de façons et qui explique l'instruction que Dieu nous a donnée dans le premier chapitre de la Genèse. Passons à Matthieu 10 et au verset 29. C'est tout simplement incroyable, Matthieu 10 et le verset 29. C'est un exemple de la façon dont Dieu pense, et c'est, encore une fois, la lentille que nous regardons. Il y a plus dans ce chapitre et dans les versets qui l'entourent. Ce que Dieu pense de sa création et comment il veut que nous pensions. Lisons-le. Matthieu 10, verset 29. Deux moineaux ne se vendent-ils pas pour un sou? Et l'un d'eux ne tombera pas par terre sans que ton père le sache, sans que ton père le sache. Ainsi, deux moineaux peuvent être vendus pour quelques centimes, et l'un d'eux tombe par terre. Et le Père, notre Père, le Père, notre Dieu, notre Seigneur, le Maître de tout l'univers, il sait que ce moineau est tombé. Il le sait. Pensez-y. Pour toutes les choses qu'un être divin, que le Père doit gérer, travailler, dont il doit se soucier, il sait qu'un petit oiseau, un minuscule oiseau, en un sens, est tombé au sol. L'attention qu'il porte à sa création devrait être, en fin de compte, l'attention que nous portons nous aussi. Et nous avons vu des instructions de soins attentifs. Nous avons vu que Dieu veut que toute la création se repose comme l'homme se repose. Mais que se passe-t-il lorsque l'on abuse de la création de Dieu, lorsque l'on domine et que l'on va jusqu'à enfreindre les commandements de Dieu? Il apporte le jugement. Allons à Jérémie 2 et au verset 7, et encore une fois, cela nous rappelle que nous regardons cela à travers une certaine lentille. Oui, certaines de ces écritures sont prophétiques par nature, elles sont futures et tournées vers l'avenir. Mais les mots qui s'y trouvent peuvent facilement s'appliquer à nous aujourd'hui, à la société qui nous entoure et que nous voyons aujourd'hui. Et ce que je veux dire aussi, c'est de nous rappeler les lois de la nature. Toutes les lois de la nature de Dieu ne sont pas écrites dans la Bible. Il est facile de citer la loi de la gravité. Nous savons qu'elle existe. Nous savons que lorsque nous l'enfreignons, cela fait mal. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres lois de Dieu dans la nature, dans la création, qui, lorsqu'elles sont enfreintes, entraînent le jugement, le malheur de l'humanité, de nous-mêmes et des sociétés qui nous entourent. Lisons Jérémie 2 et le verset 7. Voici Dieu qui parle. Je vous ai amené dans un pays abondant, pour que vous en mangiez les fruits et les produits. Donc, je vous ai fait entrer dans la terre promise. Peut-être dans le futur, je t'ai amené au paradis. Je vous ai tout donné. Mais quand vous y êtes entrés, vous avez souillé ma terre et fait de mon héritage une abomination. Ainsi, lorsque vous êtes entrés dans le pays, lorsque vous êtes entrés dans tout ce qui s'y trouvait, vous avez commencé à enfreindre les lois. Vous avez porté la domination à un niveau différent, un niveau que Dieu n'avait pas prévu, un niveau que Dieu ne voulait pas. Et Dieu dit, vous avez souillé mon pays. Nous savons ce que nous avons vu au cours de l'histoire. Nous pouvons même le voir aujourd'hui, et c'est intéressant. Voici un exemple. La pluie vient de la côte. Mais comment la pluie arrive-t-elle au milieu d'un continent? La pluie arrive au milieu du continent grâce aux arbres et aux forêts. Ils amènent la pluie à des milliers de kilomètres de la côte. Il y a de nombreux exemples de cela sur tous les continents de la Terre. Si l'homme supprime trop de forêts, il enfreint la loi et la pluie s'arrête, c'est la sécheresse. Dans le verset que nous venons de lire, si vous enfreignez les lois de Dieu pour prendre soin de la création, en fin de compte, vous souillez cette terre. Passons à Jérémie 12 et au verset 10. Jérémie 12 et verset 10. Et ici, Nous allons lire ces écritures. Nous lirons deux passages ici, 10 et 11. Nous les lirons et nous parlerons des pasteurs qui dirigent les églises dans ce monde. Lisons ce que les pasteurs, les dirigeants de ce monde, ont fait. Nous avons utilisé l'île de Pâques comme exemple. Nous avons utilisé le Dust Bowl comme exemple. Mais les dirigeants de la région de Cleveland, par exemple, qu'ont-ils fait? Mes pasteurs ont détruit ma vigne. Ils ont foulé ma part sous ton pied, ils ont fait de ma part un désert. Ils ont fait de ma portion agréable un désert. Verser des produits chimiques dans une rivière pour qu'elle prenne feu plusieurs fois. C'est ce qu'ont fait les pasteurs, les dirigeants de l'humanité. Ils en ont fait un désert, ils ont été désolés et se sont lamentés devant moi. Tout le pays est dévasté parce qu'aucun homme ne le prend à cœur. Aucun homme ne réfléchit pleinement à ses actes. La cupidité, parmi beaucoup d'autres choses, la nature de l'homme, l'esprit de l'homme, les fruits de la chair qui nous poussent à faire des choses qui ont des conséquences horribles. Mais en fin de compte, les pasteurs, les bergers, qui nous rappellent qu'ils s'occupent des troupeaux, les agriculteurs, les dirigeants des pays, les dirigeants de nos nations ont ruiné la création de Dieu. Allons à Osée 4 et au verset 3. Osée 4 et verset 3. Et ce qui se passe quand l'humanité fait ce qu'elle fait à la création de Dieu. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tous ses habitants dans la langueur. Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer seront enlevés. Nous enfreignons les lois de Dieu lorsqu'il s'agit de prendre soin de sa création. C'est ce qui arrive à la terre. Ainsi, dans Apocalypse 11, verset 18. Le jour du Seigneur, avant le début du millénaire. Dieu dit qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Nous avons vu que la domination n'est pas une autorisation d'exploiter et d'abuser de la création de Dieu. Nous avons vu que les véritables instructions de Dieu tout au long de sa Bible ne sont pas cela, mais donnent plus de détails qu'il s'agit de la responsabilité. La responsabilité que nous devons être de bons intendants, que nous devons être fidèles à ce que Dieu nous a donné. Oui, nous savons que nous ne pouvons pas le faire pleinement à cette époque, dans cette vie. Nous pouvons le faire en nous efforçant de le faire. Mais nous savons que si nous vivons notre vie, si nous restons fidèles à notre vocation, nous pourrons être à l'heure où Dieu apportera une véritable domination à toute la terre. À l'origine, Dieu voulait que l'Éden couvre la terre. Nous avons vu que l'homme a échoué dans cette entreprise. Frères et sœurs, vous et moi, et l'appel que nous avons, dans un avenir proche, nous ferons partie de ceux qui accompliront vraiment cela et apporteront l'Éden à toute la terre.